Moi, c'est André Lumbushmaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro du Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi. La cybersécurité est devenue un enjeu crucial pour la République démocratique du Congo face à la montée incessante des attaques numériques qui visent les institutions, les entreprises, les citoyens. Selon les experts réunis lors de la première conférence dédiée à la cybersécurité, au software engineering et l'innovation technologique et numérique en RDC, CyberDev organisé récemment à Kinshasa, précisément le 9 août à Showbuzz, la RDC doit impérativement se doter d'une stratégie nationale pour protéger ses données sensibles, renforcer la cyberdéfense nationale et former des professionnels locaux compétents. Avec une cyberattaque toutes les 39 secondes en Afrique, un coût annuel estimé à plus de 4 milliards de dollars américains pour le continent, la RDC, aujourd'hui mal classée en cybersécurité, se trouve face à un grand défi que seuls les efforts concertés peuvent relever. Par ailleurs, le développement d'une industrie numérique sécurisée peut aussi devenir un moteur de croissance économique et créer des milliers d'emplois spécialisés. Comment la RDC peut-elle renforcer sa lutte contre la cybercriminalité pour mieux protéger ses citoyens, ses institutions et son économie? Eh bien, vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le zone 971-680-79 Deps Vita. Est à la mise en nom de ce magazine. Julie Feza Bongonda sur la réalisation et la coordination. Meshak Boutamoutela pour l'équipe multimédia au micro, c'est Marcel Gombombala. À toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos
interviews. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Voilà, encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Nous parlons de la cybercriminalité en RDC, défis, enjeux et perspectives. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Nezi Mpanzu. Nezi Mpanzu, bonjour.
Bonjour, bonjour,
voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes fondateur et PDG de CyberDev. Ici à Kinshasa, vous avez organisé récemment une conférence au Showbuzz le 9 août dernier sur la cybersécurité. Eh bien, avec vous les auditeurs, on va échanger sur la cybercriminalité en RDC. Quels sont les défis, les enjeux, les perspectives? Je rappelle, si vous voulez intervenir par rapport à ces sujets, le numéro d'appel c'est 971-680-79. Et comme toujours, je ne peux pas manquer de remercier tous et toutes celles qui ont déjà réagi dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs, mais aussi sur la page Facebook de Paroles aux auditeurs. Voilà, cette première question, c'est quoi la cybercriminalité ou la cybersécurité?
Merci beaucoup pour la question. La cybersécurité, la cybercriminalité, ça se définit comme toutes les techniques, toutes les méthodes et les processus, les outils et tous les composants qu'on utilise pour en fait protéger les systèmes informatiques, pour protéger les données personnelles des individus, des entreprises ou de tout un pays. Et c'est la protection des actifs numériques. Elle a comme objectif d'assurer trois choses. La confidentialité des données, ça veut dire que vos données sont à vous et elles sont accessibles seulement aux personnes ou aux entités auxquelles vous avez donné droit et accès à ces données-là. Elle s'occupe aussi de l'intégrité des données, c'est-à-dire que vos données doivent être exactement telles que vous les avez placées, sans altération de nom ou de numéro, ainsi de suite. Elle assure aussi la disponibilité des données. Lorsque vous avez besoin de vos données, elles doivent être disponibles. Voilà un peu ce que la cybersécurité s'occupe et vraiment s'attelle à.
Voilà. Alors, on va parler maintenant des enjeux, des défis et perspectives de la cybercriminalité en RDC. Pour, à l'heure actuelle, on sait que vous avez organisé dernièrement une conférence ici à Kinshasa Showbuzz, une conférence dédiée à la cybersécurité, au software engineering. Vous allez nous expliquer un peu tout ça. Exactement. Et l'innovation technologique. Et puis je rappelle, vous êtes aussi lead senior security engineer chez T-Mobile à Washington aux États-Unis. Voilà, donc vous êtes vraiment un expert dans ce domaine. Alors, parlons-nous un peu des défis à l'heure actuelle.
Alors, les défis sont énormes. Je vous ai entendu dire ici que nous sommes vraiment en arrière par rapport à certains pays dans les index de cybersécurité.
Oui.
Il y a une grande commission du Cybersecurity Index qui classe un peu les pays par rapport à leur, leur manière à répondre aux défis numériques et aux cyberattaques. La RDC, nous avons, je crois, 21,6 sur 100 dans les derniers rapports. Nous sommes 126e au monde. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment loin parce que, certes, il y a eu certaines avancées, notamment la création du ministère du numérique. Il y a eu la CNC qui a été créée. Nous avons ratifié des accords importants comme celle de Malabo, où nous avons été signataires depuis 2015 et maintenant elle a été mise en place. Cependant, il y a encore beaucoup à faire, ce qui fait que nos entreprises publiques et même les entreprises et l'État sont vraiment affectées contre la cybercriminalité. Les pays voisins, les hackers du monde entier savent cela et donc ils volent nos données. Et en volant nos données, ça veut dire qu'ils ont accès à des données personnelles de milliers de Congolais. Et facilement, ils peuvent nous attaquer, ils peuvent détruire les institutions. C'est une perte en matière économique. C'est une perte dans la réputation des sociétés qui ont été victimes de ces cyberattaques. Donc voilà un peu les défis que nous avons en ce moment.
Alors pour l'instant, s'il faut parler des enjeux, parce que comme vous l'avez dit, arriver à pénétrer les données, par exemple institutionnelles, il y a des données ultra confidentielles.
Exactement.
Alors comment lutter contre cette cybercriminalité? Est-ce qu'en RDC aujourd'hui, il y a moyen de renforcer la lutte contre la cybercriminalité?
Exactement. Nous en avons les capacités. Voilà un peu le pourquoi en fait de la conférence. Nous étions venus pour discuter des solutions pour remédier à cela.
Oui.
Les solutions sont simples. Il faut d'abord éduquer tout le monde. Il faut que tout le monde sache c'est quoi la cybersécurité, c'est quoi la cybercriminalité, comment elle, elle peut nuire aux populations, ou nuire aux entreprises. Donc c'était une question de sensibiliser premièrement. Et après, c'était une question de former les gens, apprendre les gens à se protéger. Je vous donne un exemple.
Oui.
Pour attaquer une entreprise ou une institution de l'État, c'est vraiment pas de la magie. Ça passe par une personne. C'est-à-dire qu'un employé qui peut-être reçoit un lien qui est malveillant, il clique dessus et le hacker a accès directement au système et au serveur à partir des données ou des mots de passe qu'il a pu voler dans l'employé.
Mais justement, vous avez abordé quelque chose de très crucial parce qu'il arrive très souvent, il y a des liens qu'on envoie.
Exactement.
On ne sait même pas d'où provient ce lien.
Exactement.
Et on clique dedans. Mais maintenant, c'est comment faire pour savoir repérer que ça, c'est un lien?
Exactement. Ça, c'est une bonne question. Donc, dans la conférence et dans la formation que nous donnons, nous en parlerons, nous enseignons un peu ces choses-là.
Oui.
Je vais vous donner un exemple
tout
simple.
Tout à fait, oui.
Admettons qu'il y ait quelqu'un qui envoie un email et il dit République démocratique du Congo. Mais à la place de C au Congo, il a créé un lien qui dit Gongo au lieu de Congo. Alors vous, vous lisez rapidement, vous voyez République démocratique du Congo.
C'est ce que c'est pas souvent, on lit très rapidement, on ne sait
exactement,
pas. Et
tout exactement. À fait, donc il y a aussi moyen de repérer des adresses e-mail ou des adresses mail qu'on appelle malveillants. Il y a des techniques de repérage pour comprendre que celui-ci est vraiment juste et vraiment bon ou n'est pas. Donc il y a, il faudrait que les employés ou les utilisateurs soit vraiment, je dirais, aux aguets, qu'ils veillent avant de cliquer sur n'importe quel lien. Lorsqu'il y a un doute, il faut demander. Il faut demander à l'agent, à, peut-être au département de technologie, demander si exactement ce lien vient de la personne qui a envoyé. Donc il y a ces petites techniques-là que l'on enseigne pour lutter contre ça.
Mais si on est au sein d'une institution, il y a moyen de demander peut-être à votre service, mais individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire de manière individuelle?
De manière individuelle, comme j'ai dit, il faut voir les... Je vais donner l'exemple, par exemple, des adresses e-mail. Vous savez que l'adresse e-mail de la société, par exemple, c'est, je dirais, okapi.com, par exemple. Lorsque vous voyez qu'il n'y a pas okapi.com, mais que ça finit peut-être avec okapi.dev, il faut se poser les questions. Il faut directement comprendre que ça, ce n'est pas le nôtre. Donc, ces histoires-là, ce sont aussi au sein des entreprises. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait toujours un département de cybersécurité. Ce qu'ils font, c'est que chaque année, ils envoient des formations aux employés pour dire, voilà ce qui est à nous, voilà ce qui vient de nous, voici nos domaines, voici comment nous envoyons nos emails. Si vous avez des emails qui ne sont pas de ce format-là, ne cliquez pas, ne répondez pas, supprimez-les. Donc ce sont des choses qu'on essaye d'éduquer même aux entreprises, de comprendre que c'est important d'avoir un département de cybersécurité.
Alors ça, c'est important de le rappeler, hein, parce que je me rappelle même ici, hein, au sein de la MONUSCO, en tout cas, il y a nos services. Moi-même, j'ai été victime de cela. J'ai l'habitude de recevoir un mail. Ouais. Et ce mail, lorsqu'il est arrivé, c'était un mail piégé. Ouais. J'avais pas très bien regardé parce que je suis habitué à voir ces genres de mails. Et après, on me dira que voilà, on vous a eu.
Exactement. Nous sommes tous victimes de ça. Et je peux vous dire que moi, depuis que j'ai lancé, en fait, la conférence, la CyberDev, j'ai été victime de beaucoup d'attentes. Et c'est exactement, tout le monde est exposé à ces choses. Voilà pourquoi nous éduquons tout le monde à se protéger.
Alors, vous avez parlé de la sensibilisation, de la formation. Et parlons un peu, mais cette fois-ci, de l'industrie numérique. Ouais. Il y a moyen de développer un RDC, une industrie numérique sécurisée.
Exactement. La RDC, malheureusement, nous perdons beaucoup en termes de revenus numériques. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de certaines sociétés. Parlons de TikTok ou de Facebook.
Oui.
En 2023, les revenus que TikTok a générés pour l'Australie étaient à l'auteur de 1 milliard de dollars dans le PIB. Le revenu que TikTok, simplement TikTok, a régénéré ou a généré pour les États-Unis était à hauteur de 24 milliards de dollars. Alors qu'il y a une panoplie d'applications, il y a Facebook, YouTube. Donc vous voyez qu'avec des revenus comme ça, l'État peut se faire 10, 20, 30 milliards de dollars par an qui peut capitaliser et investir dans d'autres domaines. Et nous perdons cela parce que ces logiciels ne sont pas rentabilisés au Congo parce qu'il y a une politique pour que ces logiciels soient rentabilisés. Donc, un Congolais lambda peut avoir sa chaîne YouTube, il met ses vidéos et YouTube le paye et ça capitalise. Et lorsque YouTube paye, ce Congolais doit payer une taxe. Donc, vous voyez que l'État est en train de perdre. Le numérique aujourd'hui rapporte beaucoup, alors beaucoup d'argent dans d'autres pays, mais nous passons à côté de ça.
Alors, vous êtes fondateur et PDG des CyberDev ici à Kinshasa, mais dites-nous exactement qu'est-ce que vous faites par rapport à ces secteurs, mais aussi est-ce que vous travaillez avec l'État congolais, notamment avec le ministère qui s'occupe du numérique?
Exactement. La logique première, c'était de nous lancer nous-mêmes, parce que nous croyons qu'il y avait les possibilités de bouger les choses un tout petit peu par nous-mêmes.
Oui.
Nous avons commencé par cette conférence qui a réuni en fait toutes les couches sociales. Donc nous avions des étudiants qui sont venus, nous avions réuni des experts congolais. Nous avions aussi réuni des experts internationaux, notamment américains, avec qui j'ai la chance de travailler, notamment Monsieur Charlie McNerney, qui est en fait l'ami intime de Bill Gates, qui a été le responsable de cybersécurité pendant 25 ans de Microsoft. Il était là, il a même parlé pendant cette conférence et il nous a rassuré de son accompagnement dans beaucoup d'autres choses. Donc les possibilités sont là déjà de commencer par nous-mêmes, ça nous l'avons fait. L'objectif aussi c'était de créer cette compagnie qui va engager des employés, qui va engager des Congolais, des jeunes ingénieurs congolais, des experts congolais pour en fait rentabiliser le domaine du numérique et sécuriser.
Oui.
Mais nous avons besoin de l'appui du gouvernement. Nous avons fait appel au ministère du numérique, nous avons fait appel à la CNC et à toutes les commissions pour vraiment échanger des idées et nous donner un coup de pouce pour que nous puissions aller plus vite dans ce que nous essayons de faire.
Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, nous, on est encore très loin par rapport à tout ce qui est lié à la cybersécurité, mais on sait voir des pays à développer comme les États-Unis, la France, de deux fois en Japon, il y a des grandes sociétés, des grandes institutions, soit aux États-Unis, soit même en France, qui ont connu une attaque. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors qu'on imagine qu'ils sont vraiment bien outillés et puis bien développés par rapport à la cybersécurité.
Exactement. Tout ça ne se résume qu'à une seule chose.
Oui.
Aujourd'hui, tout est numérisé. Ouais. Tout passe par l'Internet, tout passe par nos téléphones, par nos ordinateurs. Du coup, toutes les attaques deviennent numérisées. Et il est tellement facile pour tout le monde d'attaquer une compagnie. Si nous voyons du point de vue physique, admettons qu'il y a eu, nous avons une banque. Pour attaquer une banque physiquement, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut être bien équipé, il faut avoir des armements et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit du numérique, je peux être au fin fond du Congo et attaquer une entreprise américaine. Ouais. Donc si maintenant il y a des millions de hackers dans le monde qui vous ciblent, mais vous avez des milliers des attentes, vous avez des milliers de personnes qui essayent de nuire à votre entreprise. Voilà pourquoi ces entreprises-là investissent énormément, et non pas seulement sur le plan des entreprises, mais aussi sur le plan national. Les pays investissent des montants énormes dans la protection de leurs données, parce qu'une seule vulnérabilité, une seule attaque qui réussit, mais coûte des millions et des millions de dollars. Donc voilà pourquoi Nous avons aussi ramené un peu cette touche, cette pensée-là, ici, localement, pour faire comprendre un peu qu'il est très important de ne pas négliger ce domaine, surtout que le Congo est en train de grandir sur le point de vue numérique. Nous devons nous protéger contre les attaques.
Voilà, on revient à vous, Nézi Panzou, avec vous. Nous parlons de la cybercriminalité en RDC, défis, enjeux et perspectives. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Je rappelle, si vous voulez intervenir, composez au 09 716 80 79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà un premier auditeur en ligne qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous êtes là depuis Vienne?
Oui, bonjour à vous tous au studio. Bonjour à l'invité.
Apparemment, il y a quelques soucis avec la liaison téléphonique. On pourra retrouver Franck un peu plus tard. Franck, apparemment, vous êtes toujours là. Non, des soucis avec la ligne téléphonique de Franck qui nous appelle depuis Vienne. Mais là, on me fait signe qu'il y a un autre auditeur, cette fois-ci, qui est au pays, qui nous appelle depuis à Bukavu. Mos, mais si moi, vous êtes là, j'espère.
Oui, je suis en ligne, pas seul.
Voilà, allez-y, Mos, mais si moi, on vous écoute.
Merci bien, j'étais d'abord à saluer les nombreuses auditrices au pied de la radio, mais aussi l'invité.
Oui.
En fait, par rapport au sujet d'aujourd'hui, ce qui est vrai, la cybercriminalité démocratique du Congo, et cela dans tous les domaines de la vie. Et comme je l'ai dit, il a dit qu'un seul coup réussi dans ce domaine, ce sont des milliers et des milliers de dollars que l'auteur gagne. Alors, moi, je pense que la RDC devrait prendre des mesures conséquentes pour voir comment sécuriser ses citoyens, mais aussi parvenir à créer des emplois pour de nombreux jeunes qui sont des chômeurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informatiques, mais malheureusement, ils ne sont pas encadrés. Ils n'ont pas de moyens pour leur permettre de mener ou de faire des recherches qui peuvent sécuriser les Congolais contre la cybercriminalité. Voilà pourquoi, je veux dire, à des grands mots, des grands remèdes, la RDC, si on avait un leadership responsable, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous n'avons que des gens qui connaissent parler et qui promettent beaucoup, mais réalisent peu. On devait investir des moyens énormes dans ce domaine, afin que ces jeunes, ces ingénieurs-là en informatique et autres domaines, fassent beaucoup de recherches y afférentes en guise de sécuriser les Congolais, sécuriser le pays. Dans le cas contraire, nous serons toujours victimes de cette cybercriminalité. Malheureusement même, les hommes politiques sont aussi victimes de cette cybercriminalité, mais au lieu qu'ils voient comment trouver des moyens en guise de sécuriser, de se sécuriser d'abord eux-mêmes, sécuriser les Congolais, sécuriser le pays, ils sont dans autre chose. Dans autre chose, allez voir l'argent là qu'on a dépensé pour la visibilité de la RDC auprès des équipes européennes. À quoi sert cet argent? On devait alors investir cet argent contre la cybercriminalité, mais comme nous avons des dirigeants qui auraient leurs priorités ailleurs, c'est pourquoi certains gens parlent même de frapper. Ils ne peuvent pas investir dans les domaines qui intéressent le pays. Ils sont intéressés d'investir dans des domaines pouvant leur permettre d'escroquer le pays davantage.
Voilà, Amos, on oui. retient qu'il faut renforcer en tout cas et trouver des stratégies dans ce pays pour ce qui est de la cybercriminalité, pour protéger les données des institutions, les données aussi des citoyens. Et vous l'avez dit, il faut également voir dans quel domaine, dans quelle mesure développer ces secteurs qui peut créer des emplois. Voilà, merci Amos Bissimoa d'avoir appelé depuis Bukavu un autre auditeur qui nous appelle cette fois-ci depuis Kinshasa. C'est Christian Cassé, si vous avez la parole.
Oui, bonjour Marcel, mes salutations à l'invité. En amont d'abord, je vous l'ai dit que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la définition de l'invité du concept de cybercriminalité et cybersécurité. La cybercriminalité ici est définie par la loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 relative au code du numérique congolais qui l'a défini comme état des comportements ou alors des infractions qui se commettent au moyen d'un support numérique et qui peut naturellement être un outil informatique ou tout autre outil assimilé. Et donc, alors, à l'ère de ce, comme partout dans le monde, il faut le dire que à l'ère de l'intelligence artificielle et de la NSI, exactement, la criminalité n'est plus uniquement basée sur le support physique, si vous le voulez vous mettre.
Mais excusez, Christian, s'il vous plaît, vous êtes référé à la loi qui parle du support numérique. J'aimerais savoir par rapport à la définition de l'invité, qu'est-ce qui est en contradiction avec ce que vous avez dit, parce qu'on est resté, moi, sur le numérique. Hein. Qu'est-ce qui est en contradiction?
Bon, en contradiction, c'est que lui, il s'est plus beaucoup basé à les définir comme étant des attaques ou des actes, en fait, qui menacent les systèmes informatiques. Mais il n'a pas ajouté cet élément légal-là.
Justement, vous avez souhaité qu'il va réagir. Vous avez souhaité qu'il puisse également ajouter cet aspect légal. Voilà. Alors maintenant, on parlait de comment renforcer la sécurité des données sensibles, que ce soit pour les institutions, que ce soit pour les citoyens. Et puis, quelle est la stratégie à mettre en place pour développer les secteurs de la cybercriminalité en RDC? Quelles sont, vous avez des choses à dire là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez?
Exactement. Je vous l'ai libéré de telle façon qu'il y a des défis qui sont liés à la cybercriminalité, il y a l'enjeu et en fait les perspectives. Et je m'en vais déjà, pour ce qui concerne l'enjeu, les défis sont énormes. Et non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les systèmes de défense congolais, en réalité, disposent moins d'outils informatiques capables de résister à une cyberattaque et autres facteurs. Et donc, déjà, les défis, c'est qu'il faut soutenir. Il faut que la RDC puisse avoir ces outils-là d'une technologie de pointe, mais également qui doivent les manipuler. Il faut former un personnel qualifié. Aujourd'hui, combien de jeunes Congolais qui peuvent œuvrer dans ces domaines aussi complexes, celui de la cybersécurité? Ils sont moins. Aujourd'hui, la RDC n'est pas à mesure d'infiltrer ou de pirater un système de défense de notre pays. Mais nous plaignons que les nôtres soient toujours infiltrés et pirates. Donc là, c'est déjà ça le défi. Il faut avoir des outils, il faut avoir un personnel qualifié, comme l'indiqué l'a dit. Bon, maintenant, quel est l'enjeu? L'enjeu, exactement, c'est protéger, en fait, les informations privilégiées liées à la sécurité ou à la défense de l'État. Parce que les secrets d'État ou les secrets classés top ne doivent pas être révélés. Aujourd'hui, avec les mécanismes, en fait, de la cyber criminalité ou alors la cybersécurité, c'est en fait un danger permanent. Et donc, on ne peut, et dans ce cas-là, moi je pense qu'il faut avoir une satellite congolaise. C'est pour cela que je crois qu'il faut avoir une autonomie, une souveraineté technologique en fait. Et cela doit passer par l'acquisition d'une satellite congolaise, qui n'est pas toujours le cas pour le moment. Alors, la perspective exactement, c'est qu'il faudrait que nous serons à mesure non seulement de nous défendre en fait des cyberattaques, mais également d'être à mesure aussi d'aller infiltrer en fait les systèmes étrangers. Puisqu'aujourd'hui, on mesure la capacité ou l'efficacité d'une armée à sa capacité de pouvoir pirater ou saboter alors le système informatique des autres pays. Mais nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. Et donc, je crois que le chantier est vaste et le défi est énorme, mais je crois que si il y a de la volonté, on peut y aller. D'où je ne vous dis pas.
Voilà, merci.
Si rester dans le cadre purement institutionnel, ça veut dire légal. Et il faut, je voudrais faire observer à l'invité qu'il y a une agence nationale de cyberattaque. Je ne sais pas s'il en a une information au Congo. Je ne sais pas si il travaille, il collabore avec, et pas si pas de la cybercriminalité.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian Kassissé. Depuis Kinshasa, Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute.
Je suis une formation en ligne avec Kabi Training, qui est un formateur congolais qui se trouve aux États-Unis. Mais pour le moment, je pense que cette semaine, il est à Kinshasa pour des vacances.
Oui.
Ce monsieur fait un travail énorme et c'est lui qui m'a donné l'appétit de pouvoir suivre les cours liés à la sécurité, à cybersécurité, cybercriminalité, cyberrisque et tout ce qui va avec. Et j'ai continué à apprendre davantage. Et quand on a aligné cette session spéciale, je me disais que waouh, c'était également l'occasion, faisant les larrons, pour qu'on apprenne davantage. Mais je voudrais quand même y aller par une réflexion, par exemple.
Oui.
Au cours des cyberattaques que nous avons enregistrées aujourd'hui, au cours des pertes économiques également que nous enregistrons aujourd'hui, l'invité, ne voyez-vous pas que il est important d'insérer les cours de cybersécurité, cybercriminalité dans les formations, dans les cours ou dans les formations universitaires ou humanitaires également secondaires. Vu l'ampleur du dossier aujourd'hui, vu l'ampleur des attaques que nous subissons aujourd'hui, il y a que certaines personnes également, comme l'invité et d'autres personnes qui s'intéressent à ces questions. Et pourtant, les menaces sont générales. Il y a nécessité, selon moi, je pense que je parle sous son contrôle, qu'on puisse insérer ces genres de formations dans les cursus universitaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses également, bien qu'il y ait les cadres juridiques renforcés, moi je suis juriste, les cadres juridiques existent depuis 2023, je pense, mais nous n'avons pas les outils techniques nécessaires qui nous permettent de rechercher les infractions ou les auteurs des cyber, les hackers, si on peut les appeler comme ça, pour que cette loi puisse s'appliquer également. Donc, il y a une certaine contradiction ou un contraste entre, d'une part, l'existence du cadre juridique et institutionnel. On vous parlera de l'agence au niveau de l'ANER, c'est cyberattaque ou cybersécurité. Ça existe. Donc, sur le plan institutionnel, cadre légal, ça existe. Mais nous avons des difficultés à pouvoir traquer les auteurs de ces mouvements ici pour que ces lois soient appliquées également. Alors, vous, en tant que technicien, qu'est-ce que vous préconisez, hein, de plus vite également? Est-ce que vous collaborez avec ces agences et quelles sont les mesures, même si cela ne viole pas également les secrets professionnels également? Et la RDC doit prendre en compte pour que au moins qu'il y ait une agence qui travaille là-dessus. KCC vous a parlé qu'il y a également des attaques qui subit l'armée. Et rappelez-vous, même au niveau des élections de 2023, Jean-Pierre Mbemba, le président de la CENI, ont annoncé ou avaient annoncé que la CENI, la boîte de données, la base de données, avait subi des attaques, c'est pas moi, autant de fois. Et non seulement la CENI, il en est également des données au niveau de la fonction publique, à la présidence et toutes les institutions également. Donc il y a un intérêt, même nous les juristes, d'avoir au moins des notions fondamentales qui peuvent nous permettre de se sécuriser les données numériques également. Alors, je voudrais citer en vous posant seulement cette question également, qui semble un peu être très technique. Ailleurs, lorsque j'essaie de circuler ailleurs, il y a ce que nous appelons les CERT, les centres des réponses aux incidents cybersécurité, qui est différent des agences au niveau de la présidence. Ailleurs, c'est un centre qui traite normalement, spécialement de ces questions, et qu'il y a plusieurs ingénieurs ou IT, les ingénieurs IT ou techniciens dans les domaines qui travaillent. Comment pensez-vous l'urgence, comment commentez-vous l'existence de ces centres également au niveau de la RDC? Est-ce que ces centres est-il important de façon autonome? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces centres de réponse aux incidents cyberattaques?
Voilà, merci beaucoup. Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. On va prendre deux auditeurs encore et puis on reviendra à notre invité, Nizi. Panzou, on prend d'abord Tagamili, Agati qui nous appelle depuis Bounia. Tagamili, vous avez la parole.
Si, cher, m'appelle Mombo Bala, je salue aussi l'invité qui est avec vous. Alors, je vous appelle depuis l'université Shalom de Bounia, merci.
Oui.
Bon, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, cher Marcel, mais malheureusement, il y a certaines personnes, il y a une certaine catégorie de personnes qui l'utilisent pour commettre des crimes. Et là, je parle de cybercriminalité. Vous vous souviendrez, cher Marcel, que même la page Facebook de la radio Capi a été piratée. Et vous vous souviendrez aussi qu'il y a eu des circulations...
La page Facebook de Paroles Auditeurs, oui. La première page a été piratée. Après, on était obligé de changer de page, oui. Allez-y.
Oui, justement, j'aimerais dire cela. Oui. Et puis, vous vous souviendrez qu'il y a eu des images qui ont circulé à travers la toile de certaines autorités qu'on peut les citer nommément, mais nous nous taisons. Vous savez, cette matière, ça a tenu l'image de toute la République. Maintenant, c'est que la RDC peut renforcer sa lutte contre la cybercriminalité pour mieux protéger son économie et ses institutions et ses citoyens en veillant et en mettant en place des mécanismes de renforcement de sa sécurité technologique et plus en renforçant aussi son intégrité. Vous savez, en matière de cette la question de cybercriminalité. La RDC peut aussi nouer, par exemple, des diplomaties technologiques comme ça avec d'autres pays qui ont déjà excellé en cette matière, qui ont déjà trouvé des guerres de cause par rapport à cette matière. On peut citer la Russie, on peut citer par exemple la France, les États-Unis, pour puiser des connaissances, des techniques, des politiques et des expertises, pour aussi voir des, à quelle manière ils peuvent avoir des accompagnements y afférents. Bon, vous savez, les autorités doivent aussi renforcer la politique de cybercriminalité à travers les institutions qui sont déjà en place. Les institutions sont là pour réguler cette chose. Mais à notre niveau, nous pensons que les choses sont encore loin d'être bien régulées. Et vous voyez que ça ternit l'image de toute la République et de tout un pays comme ça qui est en voie de développement, là où cet aspect de cybercriminalité devrait être déjà bien résolu. Vous savez, il a parlé de cyberattaques. C'est un mécanisme que nous pouvons aussi encourager, surtout de répondre vivement et activement lorsqu'il y a une cybercriminalité, qu'on puisse aussi savoir comment est-ce qu'on peut repérer ces personnes et dans la mesure des possibles, comment est-ce qu'on peut les cueillir et de les déférer devant les institutions pour y répondre de ces actes.
Voilà. Merci Tagamilia Gatti, Jonathan depuis Bounia. Et on va aller cette fois-ci hors de nos frontières pour écouter Franck qui était le tout premier auditeur. On avait quelques soucis avec sa liaison téléphonique. On fait signe que ça marche plutôt mieux maintenant. Et on va vérifier ça. Franck, vous êtes en ligne depuis Vienne. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'écoutez.
Bon, cette fois-ci, ça va. Allez-y.
Oui, merci beaucoup à l'invité. La cybersécurité pour combattre la cybercriminalité, c'est devenu comme des inhérences de la vie pratique par rapport à la vitesse technologique sur l'usage de l'outil Internet. Et pour répondre directement à votre question qui est déjà au centre même de l'émission, des dispositions à prendre, c'est d'abord, ça relève d'abord du côté de l'organisation étatique ou du gouvernement. Parce que dans certains pays, là où je vis personnellement, l'obtention de chaque carte SIM pour n'importe quel téléphone ou l'achat des appareils numériques digitalisés ou quoi, ça doit se faire moyennant l'enregistrement. Donc, avant de l'obtenir, vous devez absolument d'abord décliner vos coordonnées identitaires les plus fiables, soit sur les passeports, permis de conduire, carte de service, ainsi de suite. Et dès que vous êtes enregistré, l'appareil que vous allez obtenir sera aussi identifié de manière codée par rapport à vos coordonnées.
Oui.
Si bien qu'en cas d'abus commis sur cet appareil ou sur base de votre numéro, on pourra déjà peut-être lancer des enquêtes ou des investigations sur base de cette identification-là. Et à partir de cette technique, à partir de cette disposition, il y a déjà lieu de se situer par rapport au processus des enquêtes. Mais seulement par rapport à ce qui se passe chez nous, je crois que c'est à ce niveau-là que moi je vois la plus grande difficulté. Je ne sais pas maintenant de nos jours si, par exemple, l'obtention des cartes SIM est réglementé. Parce qu'il y a quelques années, quand je venais là, il suffisait de donner 500 francs ou 1000 francs à un neveu, à une nièce, on allait quelque part, on me ramenait une carte SIM. Et quand on vous ramène une carte SIM, moi personnellement, je me demande toujours si c'est enregistré. Si c'est enregistré, c'est bien. Mais si c'est pas enregistré, le danger est que on peut commettre des forfaits sur ces numéros. On peut lancer des enquêtes, on aura autant de difficultés pour chercher à repérer qui est vraiment la personne qui est la première responsable de tous ces abus, de tous ces crimes. Et il en est de même des appareils, ordinateurs, laptops ou de tout appareil à usage digital. Alors, selon moi, parmi les suggestions, c'est arriver d'abord à réglementer l'obtention de toutes ces cartes SIM et des appareils et aussi chercher à réglementer les lieux de tous les circuits de distribution de ces appareils-là, pas seulement au niveau de l'obtention, même au niveau de la vente. Et cette réglementation devait mettre en contact l'État congolais et toutes les sociétés qui non seulement produisent ces appareils, mais aussi assurent le circuit de leur vente. Je sais que En définitive, c'est toujours difficile de parler du combat de la cybercriminalité parce que il s'agit d'une intelligence qui se sert aussi de la ruse, mais il y aurait quand même des leviers pour chercher à maîtriser un peu la gravité ou la complexité de ce dont on est en train de souffrir à beaucoup de niveaux. Je crois m'arrêter là.
Voilà, merci beaucoup Franck de nous avoir appelé depuis Vienne. Avant de revenir à notre invité, Nizim Panzou, rapidement, cette réaction que je m'en vais lire de Obed Tamwasi depuis Goma. Au Nord Kivu, tous les pays du monde qui ont la grandeur et la sécurité numérique font de la cybersécurité une priorité des priorités, parce que la cyberattaque peut concerner même les données de sécurité nationale et devenir un levier de déstabilisation nationale. Cette attaque est une nouvelle forme d'insécurité des personnes et des données confidentielles. Contrôler notre cyberespace serait incontournable pour la sécurité de la République avant, pendant et après la situation actuelle. Pour la RDC, avec notre nouvelle loi sur le numérique, nous avons apprécié ces votes, mais nous accusons retard énorme à rattraper. Pour y arriver, il faut que l'État prenne des mesures suivantes. Il propose quelques mesures, par exemple, investir dans les bourses d'études pour lutter contre les cyberattaques, le décryptage numérique, la surveillance des cyberespaces afin d'avoir une souveraineté numérique, créer nos propres serveurs nationaux pour lutter contre la fuite des données, investir dans la détection des menaces pour y faire face et identifier les auteurs, investir dans la recherche et l'innovation en matière de cybersécurité nationale, développer une cyberdéfense pour les institutions publiques, militaires et administratives en créant une unité spécialisée d'experts de l'État, créer des unités militaro-civiles dans un même laboratoire de défense contre les attaques numériques et conclure des partenariats publics-privés dans le domaine de la cyberdéfense. Voilà, ça c'est Obed Tamwasi qui nous a écrit depuis Goma. Au Nord Kivu, vous avez été nombreux à réagir. On fera bien sûr, comme toujours, les condensés de vos réactions avant la fin de cette émission. Voilà, Desi Panzou, vous avez suivi, en tout cas, beaucoup de réactions intéressantes. Hein. Alors, je ne sais pas comment... D'abord, par exemple, ceux qui ont proposé qu'il faut former un personnel qualifié, et ceux qui ont dit c'est vrai qu'il y a le ministère du numérique, mais il faut des outils techniques informatiques appropriés pour y faire face. Vous avez également Maître Patrick qui a parlé du centre de réponse aux incidents des cyberclimatiques. Vous pensez que ça peut être utile pour la RDC. Alors, comment Exactement. Vous réagissez à toutes ces réactions?
Exactement. Je vais réagir à tout ce qui a été dit en donnant simplement l'exemple de là où je suis. Comme j'ai dit, moi je suis responsable de la cybersécurité chez T-Mobile aux États-Unis. T-Mobile a un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars. Ça, c'était l'exercice 2024. Vous savez, sur les 80 milliards de dollars, déjà, avec tout le respect que je dois au pays, le chiffre d'affaires est déjà même beaucoup plus grand. Mais il investit plus de 200 millions de dollars dans la cybersécurité. Et aujourd'hui...
Donc ça demande vraiment un investissement, beaucoup d'argent.
Ça demande de l'argent, ça demande des moyens. Oui. Voyez, parce que les attaques, c'est tous les jours, chaque heure, il n'y a pas de repos. Donc les hackers ne dorment pas, ça attaque tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faut des réponses colossales. Je vais vous donner un exemple de ce que nous sommes en train de faire vite fait. On a compris par exemple que beaucoup de vulnérabilités viennent du fait que les employés utilisent des navigateurs. Donc les navigateurs deviennent des portes d'entrée. La compagnie décide de créer notre propre navigateur avec des régulations précises. C'est-à-dire que si vous utilisez l'ordinateur de l'entreprise, vous n'avez pas peut-être accès à utiliser d'autres sites internet, YouTube, vous ne pouvez peut-être pas cliquer à certains emails. Donc vous voyez qu'il y a une sécurité qui a été mise en place et ce sont des réflexions comme ça que nous devons faire même au sein des entreprises, au sein de notre pays. Et j'ai beaucoup apprécié le maître qui a parlé de notre confrère qui a parlé d'une équipe qu'on appelle CSIRT. Il y a aussi ce qu'on appelle le SOC, Security Operations Center. Ce sont des choses qui ne sont même pas sous d'autres cieux. Ce n'est même pas seulement national, mais chaque entreprise en a. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, la réponse aux incidents? C'est une équipe qui, elle, met 24 heures sur 24, ne se focalise qu'à prévenir les cyberattaques, à regarder, à détecter, à déchiffrer même les transactions, les informations qui sont transmises d'un ordinateur à un autre, d'un serveur à un autre. Donc c'est une surveillance à 100%. Même chose pour ce qu'on appelle le SOC, qui est aussi une salle d'opération 24 heures sur 24 qui analyse les outils, qui essaie de détecter, de réagir aux incidents, de prévenir. Ces choses-là doivent être mises en place. Et j'ai beaucoup apprécié notre confrère qui a aussi parlé de l'avancement que nous avons du point de vue des lois et des régulations. C'est bien, mais une chose, c'est que la cybersécurité, elle est beaucoup plus pratique que théorique. Ouais, il faut faire des actions. Il faut que les lois et les commissions qui ont été mises en place soient suivies d'une expérience.
Par exemple, pour l'Agence nationale de cybersécurité, il faut absolument donner des moyens, mettre des moyens.
Exactement. Et... Je vous informe que hier, j'avais un rendez-vous déjà avec la CNC, qui est la Commission nationale de la cyberdéfense, et nous avons échangé avec eux. Ils nous ont, par leur billet aussi, invités à une activité que le chef de l'État a mise en place au niveau de New York, qui sera une espèce de conférence qui s'appelle Digital, Congo Digital, j'ai oublié le bon terme, mais c'est en fait pour réunir toutes les têtes et toutes les pensées, tous les ministères à réfléchir sur la question de la cybersécurité en association avec certaines entreprises de la place. Donc je salue les efforts qui sont faits, je ne veux pas ici dire qu'il n'y a rien qui est fait, non, il y a des efforts qui sont faits, mais moi je viens juste faire cette sonnette d'alarme pour dire que nous sommes loin, nos efforts ne représente pas grand-chose par rapport à tout ce qui est déjà fait.
Et surtout par rapport à cette montée des cyberattaques. Il faut vraiment à trouver des moyens qu'il faut rapidement pour y faire
face.
Et il y a ceux qui ont parlé de la formation, des agents qualifiés par rapport à cela.
Exactement.
Et il y a même quelqu'un qui a évoqué peut-être voir au niveau de nos institutions supérieures universitaires mettre...
Exactement. C'est ce que nous faisons. C'est ce que la compagnie CyberDev que nous avons créée est en train de faire. C'est-à-dire que nous avons deux volets de formation. Nous formons les entreprises. Les entreprises viennent vers nous et nous formons leurs employés, nous formons leurs départements techniques pour en fait leur informer de toutes ces différentes formes de cyberattaques qui existent dans le monde. Mais nous avons aussi des formations grand public que nous avons commencé, dont le premier module commencera au mois de octobre. Et j'invite
des formations gratuites ou bien il faut payer.
Évidemment, il y a une petite touche de paiement parce qu'il y a une salle qu'il faut louer, il y a des gens qu'il faut payer. Donc, ce sera payant, mais elle est ouverte à tout le monde. Que vous soyez médecin, avocat, tout le monde qui utilise un téléphone est vulnérable à une cyberattaque. Donc, je vous invite massivement à y souscrire.
Voilà, avant de revenir au standard pour peut-être avoir encore deux derniers auditeurs, donc je lui fais la clarification, mais fait signe qu'il y a deux auditeurs qui aimeraient intervenir, d'accord, on pourra les avoir, mais permettez-moi d'abord de lire rapidement ces condensés des réactions, en tout cas pour une fois, en tout cas moins que je n'oublie, c'est pour la première fois qu'on a un sujet où il n'y a que des avis favorables, en tout cas aucun avis défavorable par rapport à des stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre la cybercriminalité en RDC. En tout cas, tout le monde est unanime, une mobilisation majeure de l'État congolais combinant renforcement du cadre légal, l'amélioration institutionnelle, le développement des compétences humaines, l'investissement dans les infrastructures et la coopération internationale. Ils insistent aussi sur l'importance d'éduquer la population et d'intégrer la jeunesse dans la lutte contre la cybercriminalité. Le numérique doit être une opportunité pour la souveraineté nationale et la croissance économique. En tout cas, c'est ce que pense Eric Rigen, Capena, Melchi, Emouenia, Steve, Bayegueri, Gaston, Gandou, Georges, Kilangalanga, qui pourra peut-être aussi intervenir. Obelta, moi aussi, je venais de lire sa réaction, avec une longue réaction, et même des solutions qu'il avait proposées également. Junior Bopongo, Jackson, Likungola, Samuel, qui c'est les choix, Calvin, Christian Kassessi, qui est également intervenu en direct, Rovins, Matiti, Paulet, Kimbundi, Simon Thioul, voilà, tout le monde est favorable à mettre de moyens pour lutter contre la cybercriminalité. En RDC, il aurait également cette question à laquelle notre invité pourra répondre. La RDC sera-t-elle relever les défis de la cybersécurité en mobilisant tous les acteurs en modernisant ses institutions pour protéger efficacement ses citoyens et son économie, va répondre à cela. Mais prenons d'abord deux derniers auditeur, et puis on reviendra à notre invité pour qu'il puisse réagir et conclure. Alors, on y va rapidement avec Georges Kilanga qui nous appelle depuis Bounia. Georges, vous êtes là?
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à l'invité.
Alors, Georges, vous savez comment ça se passe lorsqu'on est vraiment dans les derniers virages, donc avant de conclure ce magazine, on vous accorde deux minutes pour réagir rapidement, peut-être compléter d'autres infos par rapport à ce qui a été déjà dit. Allez-y, Georges.
Oui, merci beaucoup. Je salue toute la pertinence des idées évoquées par l'invité. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites et c'est vrai. La RDC actuellement est en retard et la cybersécurité aujourd'hui est inhérente à toute société ou à tout pays qui veut en tout cas protéger sa population. Et je rappelle ici que la sécurité, c'est d'abord une affaire de l'État. Mais pour cette problématique, je pense qu'il faut se concentrer sur des piliers. Le premier pilier, ce sont les lois, on l'a dit, il faut également et renforcer les compétences humaines, mais aussi les infrastructures. Moi, je proposerais à l'État, à part tout ce qui a été dit, il faut justement que l'État investisse dans la recherche et l'innovation. Depuis un certain moment, on a comme l'impression que notre État est en train parfois de négliger cette dimension-là. On a un ministère des numériques. On ne sait pas ce que ce ministère fait. Alors, c'est un ministère qui devrait nous aider dans des choses pareilles. Mais il faut également recourir au partenariat public-privé. Il faut participer à la coopération, donc à la coopération internationale. Aujourd'hui, on a des organisations comme l'OTAN. Pourquoi la RDC n'initierait-elle pas donc des partenariats, des coopérations internationales dans le domaine de la cybersécurité?
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, il faut justement concentrer les efforts pour que nous soyons forts.
Voilà, c'est parmi des solutions qui ont été apportées par Bel Datamos. En tout cas, c'est parmi des solutions que j'avais énumérées lorsque j'ai lu sa réaction. Et l'invité également revenu sur ça. Merci également à vous d'y revenir. Merci Georges Kilangalanga. Depuis Bounia, on va prendre le tout dernier Moïse Nabachachou. J'espère avoir bien prononcé son nom, qui nous appelle depuis Bouka. Vous avez la parole, Moïse, Maître Moïse. On vous écoute, vous avez aussi 2 minutes rapidement parce qu'il faut qu'on puisse conclure avec l'invité. Allez-y.
Merci beaucoup, M. Marcel. Je salue tous les auditeurs de Gapi. Et avec la thématique du jour, la République démocratique du Congo fait face à une augmentation significative des cyberattaques qui menacent la sécurité des citoyens, des institutions comme les mécanismes de lutter contre la cybercriminalité en République démocratique du Congo. Je pourrais nous proposer 6 mécanismes dont à ne pas achever, à la détournir qui s'est fait voir en République démocratique du Congo. Et la première proposition, j'aimerais que la République démocratique du Congo puisse renforcer du cadre juridique et institutionnel. Et deuxième, c'était du renforcement des capacités de formation. Et de trois, c'est l'amélioration des sécurités des infrastructures critiques. Et la quatrième, il fallait que la République démocratique du Congo puisse coopérer avec les institutions internationales et régionales. Et la cinquième des choses, c'était de sensibiliser l'engagement aux citoyens et en fait développer une stratégie régionale pour l'Est de la République démocratique du Congo.
Voilà.
Et enfin, en conclusion, et j'aimerais dire, pour mieux protéger ses citoyens, les institutions aussi, et son économie contre la cybercriminalité, la RDC doit combiner un cadre juridique robuste et une formation accrue des acteurs locaux, une sécurisation des infrastructures critiques et une coopération internationale renforcée. Les provinces de l'Est, Nord, Kivu et Sud-Kivu.
Voilà. En tout cas, on est bien d'accord, Maître Moïse, on est bien d'accord, vous êtes revenu par rapport à ce que vous ont précédemment dit, mais vous avez peut-être ajouté, peut-être quelque chose de nouveau, peut-être une stratégie nationale pour l'Est du pays qui est en proie à des conflits armés, dont on retient cela. Merci, Maître Moïse Nabachachou, d'avoir appelé depuis Bukavu. On revient à notre invité, on pourra conclure également, mais avec cette question, est-ce que la RDC saura-t-elle relever les défis de la cybersécurité en mobilisant tous les acteurs et en modernisant ses institutions pour protéger efficacement ses citoyens et son économie et puis voilà.
La RDC peut le faire, oui. Nous avons les moyens de le faire, je pense qu'il y a des Congolais qui sont très intelligents pour mettre ces choses en place, je pense que c'est plus une question de volonté. Et en une minute, je veux juste parler vite fait de ce qu'on appelle le software engineering que nous n'avons pas eu le
temps de survoler. Il fallait de nous rappeler, allez-y.
Le software engineering, c'est en fait le développement des logiciels, et c'est des logiciels en fait qui aident à rentabiliser d'abord bien sûr dans les caisses État, mais aussi à renforcer la cybersécurité. J'inviterais vraiment, c'est des sujets quand même assez sensibles, mais de façon vraiment très courte, je peux dire que je peux vous donner un exemple d'une application.
Allez-y, on a encore un peu de temps.
Je peux vous donner l'exemple d'une application que nous avons faite et que vraiment c'est encore un secret, mais je peux quand même dévoiler ce que nous pouvons créer des logiciels pour, en termes de géolocalisation, voir exactement où notre armée est déployée et là où les armées étrangères sont déployées au sein de notre pays. Ouais, ça nous aide même dans la cyberdéfense. C'est des choses qui ont déjà été faites, mais évidemment, nous devons discuter peut-être avec l'armée, discuter avec toutes les autres couches de l'État. Donc, le software engineering, c'est un peu ça. C'est le développement des logiciels qui nous aident, en fait, même dans la cybersécurité. Et ça, c'est une chose que nous faisons. Donc, en conclusion, vous avez vu, par exemple, ici, que tout le monde a cet engouement-là de se dire, il y a urgence. Nous devons faire quelque chose. Nous sommes en retard. Tout est numérisé. Si nous ne sommes pas sécurisés, c'est un problème. Et d'ailleurs, sous d'autres cieux, lorsque vous commencez une entreprise, vous commencez une compagnie, la première chose à laquelle vous pensez, c'est la cybersécurité. Parce que ce que vous avez de plus important, ce sont vos données. Si on vous vole vos données, c'est un problème. Si on vole des données médicales à un hôpital, c'est un problème.
Mais il y a par exemple Franck qui nous a appelé depuis 20 qui a proposé qu'il faut sécuriser par exemple tous les outils informatiques, qu'il faut sécuriser même le SIM de téléphone.
Exactement, exactement. Ça, ce sont des choses qui sont faites sous autres yeux. Ça permet la traçabilité, ça permet de savoir qui fait quoi, dans quel moment. On appelle ça un peu des logs. Ça veut dire qu'on peut retracer exactement à la seconde qui a fait quoi, qui a posé cet acte et tout ça. Lorsque nous numérisons tout ça sous, je dirais, le parasoleil ou le parapluie d'une cybersécurité, nous serons vraiment sécurisés. C'est ce que nous devons faire.
Alors, certainement, il y a, vous avez même suivi, il y a, tout le monde a été favorable par rapport à ces sujets, par rapport aux différentes perspectives. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui aimeraient peut-être, si vous avez parlé des formations ou entrer en contact avec votre structure, comment faire?
Exactement. Donc, nous invitons les entreprises déjà de l'État, les entreprises privées à nous contacter. La compagnie s'appelle CyberDev. Nous avons un site internet www.cyber avec S à la fin.
Non, on va y aller doucement. Ouais. Allez-y.
Okay, donc www.cyber, donc CYBERS.dev. Vous pouvez nous contacter à partir de là. Vous pouvez solliciter nos services. Pour la formation, c'est la même chose. Dans notre page internet, vous pouvez souscrire à la formation et vous enregistrer à partir de là. Il y a aussi un numéro de téléphone que je peux donner.
Oui.
Vite fait, un numéro local. 089 82 85 339. Je répète rapidement. 089 82 85 339 et vous pouvez nous joindre là-bas, nous serons à votre disposition.
Voilà, monsieur Nézi Impanzou, je dois l'avouer, c'est un vrai plaisir de vous recevoir dans ce studio, parler de la cybercriminalité. Je rappelle que vous êtes Lead Senior Security Engineer chez T-Mobile à Washington des États-Unis, fondateur et PDG de CyberDev ici à Kinshasa. On espère vous retrouver prochainement.
Merci, à la prochaine.
Voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de 6 jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui était à la mise en œuvre de ce magazine et réalisé, coordonné par Julie Feza Bogonia. Merci à Melchak Boutamoutou qui était là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'était Marcel Ngombobal. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin à vos protégés et vos données. Au revoir à toutes et à tous.